l'émission jazz d'Aligre FM.
Bien bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. On est heureux de vous retrouver pour une émission. Il y a plein de monde sur le plateau. Et en fait, c'est une réunion un peu entre amis parce que ils ont l'habitude de venir ici. Il y a pas longtemps que vous les avez entendus pour d'autres projets. Tous les deux parties. Une première partie avec un tromboniste qui est en face de moi, juste pile en face de moi. Je vais laisser dire son nom.
Daniel Zimmermann.
Vous avez entendu cette voix que vous avez entendue il n'y a même pas un an à l'occasion d'un duo avec le saxophoniste Eric Seva et qui nous arrive aujourd'hui pour un album Snapshot qui paraît sur le label Bleu. Damien qui paraît dans quelques jours, dans deux jours, j'ai la tâche presque est pas loin, je me retourne vers elle, je crois que c'est le 17 octobre que ça paraît. Mais oui, mais comme effectivement ça va être diffusé samedi. Voilà. Et puis en deuxième partie d'émission, un duo, alors eux aussi, ils étaient venus présenter chacun leur projet, je me retourne vers la pianiste du duo.
Delphine Do,
qu'on avait entendu sur le projet de John Doland. Et le saxophoniste, Julien Soro. J'entends pas, j'ai pas le retour de Julien. Vas-y, redites-le.
Julien Soro.
Oh là là, aussi, quelle voix. Mais vous devriez chanter tous les trois. Mais je me suis posé la question en faisant cette émission. Vous connaissez? Vous avez déjà joué ensemble? Vous vous pratiquez?
Tout à fait. Avec Julien, on s'est pratiqué dans Pig Machine, dont il était un des piliers
de Fred Morin
dès l'époque héroïque et dans lequel j'ai beaucoup remplacé à beaucoup de postes puisque j'y ai fait du tuba les premières fois. Et ensuite dans l'Orchestre National de Jazz. Et surtout, il y a 10 jours, j'ai remplacé dans leur nouvel orchestre. Voilà.
On va en parler en deuxième partie, c'est la formule élargie du duo, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Vous n'avez pas de matériel à nous faire écouter.
Mais pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Ça ne saurait tarder. Daniel Zimmermann, album Snapshot. Alors déjà, Snapshot, des moments de vie que vous avez captés, que vous avez, sur lesquels vous avez mis de la musique.
En fait, c'est parce que c'est un disque qui est extrêmement figuratif. Donc chaque morceau, il est lié vraiment à un instant précis ou quasiment. Donc ça parle d'amour, ça parle de retrouvailles, ça parle de douleur, ça parle d'espoir, ça parle de plein de choses. Je pourrais développer, mais j'ai pas de thématique globale en fait. C'est des instantanés de la vie.
Oui, c'est ça. C'est des polaroïdes.
Mais c'est pas un disque formel comme le précédent que j'avais fait autour de Gainsbourg ou d'autres disques que j'ai pu faire. C'est un disque qui est une espèce de disque de tranche de vie, quoi.
Et avec moi j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur, c'est un peu votre goût de la chanson.
Ouais, moi j'essaye de chanter quand je joue du trombone, et sur ce disque-là particulièrement, j'ai essayé de faire quelque chose de, entre guillemets, d'efficace. Alors c'est un peu péjoratif quand on dit ça et qu'on est artiste, mais le but c'était pas d'être efficace, le but c'était de centrer vraiment l'attention sur la composition. J'avais des compositions qui étaient inspirées, bon il me faut longtemps moi pour avoir des compositions qui sont inspirées, d'ailleurs... Je pense que le prochain, ce sera à nouveau un disque de détournement. Il faut que je renouvelle mes stocks, si j'ose dire. J'aime bien avoir de l'avance. Mais donc, je voulais que ce soit comme un disque de folk song, mettre en valeur la composition avant de mettre en valeur le jouage, l'interaction, l'improvisation que je pense qu'on va développer plus sur scène. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morceaux qui durent 4 minutes et demie, 5 minutes, comme des chansons.
Et vous dites folk song?
Non, j'ai pas dit folk song. Si, j'ai dit folk song.
Vous avez dit folk song.
Ah ouais, je pensais à un songbook, mais du coup ça peut renvoyer à ce style de musique là. Cela dit, il y a pas mal de guitares sèches sur ce disque, ce qui se fait pas beaucoup dans le jazz et encore moins dans le jazz électrique. Donc avec des arpèges, des choses comme ça, donc effectivement ça donne, et moi je l'avais jamais fait. Il y a de la guitare classique, il y a de la guitare folk justement, donc voilà.
Et il y a Pierre Durand.
Et on va y venir, bien sûr, au casting, bien sûr. Mais vous disiez qu'il y a beaucoup d'états d'humeur, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi, de votre côté, un côté un peu engagé, une vision du monde, en fait. Enfin, des choses qui vous font réagir. On va parler tout à l'heure du morceau que vous faites avec Sanseverino, par exemple. Il y a de l'engagement, quand même.
Oui, alors, bon, honnêtement, pour moi, les morceaux les plus importants sont les morceaux intimes, mais qui me sont intimes, mais qui peuvent vraiment être transposés... sur l'intimité de chaque personne. Mais après, il y a deux ou trois morceaux qui ont une tonalité un petit peu plus politique, effectivement, et notamment ceux sur lesquels j'ai mis des textes, et des textes en français. Donc le morceau avec San Severino, c'est un morceau qui existait auparavant en version instrumentale, que j'ai joué en version instrumentale avec mon groupe, avec Benoît Delbecq et compagnie. Et en fait... c'est un morceau qui m'a été inspiré par le... J'avais vu dans l'actualité que les milliardaires, certains, ceux de la City, se faisaient construire des ranchs en Norvège pour fuir le changement climatique le moment venu. Et ceux des États-Unis, ceux de Wall Street, en Nouvelle-Zélande. Et donc le morceau, c'est une espèce de... Imagine une espèce de fuite, c'est comme une fiction, une fuite un peu grotesque, un peu burlesque de ces gens qui fuient quelque chose qui, de toutes les façons, va leur tomber d'une manière ou d'une autre sur la... et qui va les rattraper. C'est ce qui se passe dans la chanson. Donc voilà, c'est une farce au sens moyenâgeux du terme, une farce qu'on se moque des puissants.
Il y a un petit côté farce. Avant qu'on soit interrompu pour des questions techniques, je disais que la pochette de l'album, vous voyez dans votre baignoire avec un chapeau texan, c'est le côté farce, c'est ça? On a l'impression que il y a beaucoup de dérision aussi dans certaines choses.
Bah moi mon truc c'est un peu l'autodérision sur scène. Je parle beaucoup aux gens et en fait même quand je parle de choses tragiques, j'aime bien démystifier. Et puis j'essaie d'inclure les gens qui sont en face de moi dans ce que
dans
je raconte. Non, pas dans la baignoire, hein, certainement pas. Voilà. Après on m'a beaucoup dit que c'était super une pochette avec des poils parce que ça se faisait jamais. Et pour moi, je dis souvent que je fais de la musique avec des poils parce que c'est l'inverse de la musique aseptisée. Donc finalement ça me va bien, c'était pas prémédité, hein. C'est mon ami photographe qui m'a mis dans cette baignoire et je me suis pas épilé.
Il y a une Oh, voulez-vous qu'on reste sérieux quand même avec vous. Bon, bref, il y a une artiste qui a fait un album qui s'appelle Le Carillon, et donc à chaque fois qu'elle fait un concert, elle se balade avec son carillon. Je me suis demandé si vous alliez vous balader.
Non, avec mes poils, oui, à chaque concert, je me balade avec mes poils.
Vous ne vous épilez pas avant vos concerts.
Ah non, avec mon chapeau ou ma baignoire, pardon.
Bon, bref, restons un petit peu sérieux. On parlait de moments intimes, il y a des moments très très intimes et très forts dans cet album. Je vous propose qu'on écoute Come Home, d'accord?
Oui. Thank you.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland à Ligre FM 93.1 en compagnie de Daniel Zimmerman pour la sortie de l'album Snapshot, apparaître sur le label bleu d'Amiens. Juste avant, parce que j'ai peur qu'on l'oublie, est-ce qu'il y a une date de concert à annoncer?
Oui, alors il y en a plusieurs parce qu'on continue de jouer le répertoire sur Gainsbourg, mais pour Snapshot, on va faire la première à Amiens le 5 décembre et on va faire le New Morning le 27 janvier. Voilà, pour commencer.
New Morning, voilà. On le rappellera en temps voulu. Donc on parlait effectivement de plein de choses qui vous ont inspiré, de choses très intimes, parce qu'effectivement l'album avant le duo, c'était un album autour de Gainsbourg, hein, c'était l'homme à la tête de chou, Inurigouet, c'est ça?
Oui. Ouais.
Et ensuite il y a eu le duo avec Eric Seva. Là c'est quelque chose. Là vous êtes dans quelque chose effectivement de très intime. Là ce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais c'est quelque chose de très fort. Hein.
Oui, c'est un morceau que j'ai écrit pour mon fils, pour son anniversaire, pour ses 15 ans, alors qu'il était en hôpital psychiatrique. Donc je l'ai écrit juste avant, et pour lui donner de l'espoir et le faire revenir vers la lumière. C'est pour ça que la fin du morceau est très douce, très lumineuse, et que ça s'envole un peu sur les refrains, alors que les couplets sont très tristes, parce qu'il était dans un état difficile.
Ça, c'est des morceaux que vous avez écrits il y a combien de temps?
Ça, c'est il y a 2 ans.
2 ans, d'accord. Donc vous avez accumulé du matériel et...
Moi je peux pas écrire sur commande, donc quand il se passe des choses et que j'ai le temps et qu'il se passe des choses dans ma vie, j'écris. Ouais. Et puis des fois c'est inspiré, des fois ça va à la poubelle, mais quand c'est inspiré, en général je vois tout de suite et je sais que je vais le garder, j'ai mon petit dossier. Voilà.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler de vos camarades de jeu?
Avec plaisir.
Il y a des camarades de longue date et puis il y a des petits nouveaux, mais je veux pas spoiler là.
Ouais, alors il y a Pierre Durand, c'est son 3e album avec moi.
La guitare.
Pierre, c'est un mec d'une générosité inouïe dans la vie, comme dans son jeu de guitare, comme dans la manière dont il transpire sur scène. Pierre, c'est quelqu'un que j'ai appelé au départ parce que je voulais à la fois la culture du rock, de la pop, surtout je voulais la culture du blues, et puis quelqu'un qui puisse aller dans les musiques improvisées, vers l'imprévu, vers la surprise. Et Pierre, il a été notamment au cours d'un voyage initiatique à la Nouvelle-Orléans où il avait enregistré son premier album. Il est très marqué par le blues et moi aussi, c'est quelque chose que je revendique. J'en ai écouté tout petit et dans toutes les musiques que j'ai écoutées, le plus en tout cas, il y a toujours eu du blues. Et je pense qu'il y en a encore dans la musique que j'ai. Mais le but, ce n'est pas d'essayer de le jouer à l'américaine. Ce serait bien vain de le jouer comme eux, en tout cas de l'incarner comme eux. Le but, c'est de se l'approprier, d'en faire quelque chose de personnel et qui puisse aller aussi partout. Donc pour ça, il faut avoir à la fois cette culture du blues et une ouverture à 360 degrés. Et Pierre, il est vraiment comme ça.
C'est exactement, en fait, vous avez devancé un peu une question, parce que c'est une question que je voulais vous poser, justement, c'est la marque du blues que j'ai retrouvée dans cet album. J'ai demandé si vous aviez des maîtres en la matière.
En fait, du blues, il y en a dans tellement de musique, voilà, mais il y a plein de musiques dans lesquelles je le retrouve. Tout petit, j'ai écouté Tea Garden, j'ai écouté de la musique de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, encore, j'écoute de la musique de la Nouvelle-Orléans, beaucoup, mais plus du funk. Voilà, c'est gorgé de blues partout. Je peux pas vous dire, en ce moment, je fais un groupe de rock à la batterie, je reprends du ZZ Top de la première époque. Voilà, j'aime ça, c'est tout, c'est comme ça.
Alors, on a dit Pierre Durand. Ensuite, il y a à la batterie, il y a quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps.
À la batterie, il y a Julien Charlet. Alors lui, il était là sur mon premier disque déjà. Charlet, c'est une bête en fait. on dirait que c'est pareil, hein, il éructe sur scène, il a une espèce de présence énorme. On dirait un animal en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux bêtes sauvages sur les côtés. Et à la fois, lui, c'est l'assurance touriste. On dirait qu'il accélère alors que le tempo bouge pas. Il prend des risques partout et pourtant, on se sent toujours à l'aise. Enfin, voilà,
C'est quoi prendre des risques?
Prendre des risques, c'est faire des choses totalement inattendues.
Et qui vous surprennent, vous, en tant que...
Qui nous surprennent et qui nous donnent l'occasion de rebondir dans l'improvisation. Ouais. Ouais, pour nous, c'est ça, prendre des risques. C'est pas des partis pris de production. Ça pourrait être ça aussi, mais non, dans le jazz, quand on parle de prendre des risques, en général, on parle de l'imprévu, de l'instant, voilà, de l'improvisation.
Et alors, il y a une nouvelle qu'on connaît pas forcément très très bien, nous, dans le milieu du jazz.
Ouais, c'est Élise Blanchard. Moi, je l'ai rencontrée, cela dit, dans le groupe de François Janot, Pandémonium, où elle venait remplacer alors qu'elle était toute jeune. Depuis, j'ai gardé un œil, une oreille. J'ai vu qu'elle jouait avec énormément de gens dans la pop. Et encore plus aujourd'hui, de plus en plus. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle fait. Elle joue avec Philippe Catherine, elle joue avec Mélissa Lavaux, elle joue avec Moussangaré, ce qui est quelque chose d'important pour moi parce que y a, sur le répertoire précédent, notamment, il y avait pas mal de rythmiques un petit peu africaines parce que j'ai beaucoup joué avec les Africains. Il fallait quelqu'un qui soit à l'aise là-dessus. Et puis, surtout, elle joue de la basse avec un son, ou plutôt des sons. Certains diront vintage ou 70s, mais voilà, elle joue au Mediator. Et moi, je voulais ce type de son mordant avec des aigus derrière moi. Et puis la complémentarité avec Charlet, elle est parfaite, quoi, parce qu'elle, elle tient la baraque et ça lui va bien, et à la fois elle est très à l'aise là-dedans, il peut se passer n'importe quoi autour, elle participe aussi, elle est économe de ses notes, elle fait la note juste, et nous on est plus bavards, donc ça nous fait du bien aussi.
Et vous parliez du Pandémonium, vous aviez un copain dans le Pandémonium qui est dans l'album, c'est Thomas.
Ouais, bah j'avais.
Je sais pas si vous avez fréquenté le Pandémonium en même temps.
Si, on l'a fréquenté en même temps. Ouais, bien sûr, il y a Thomas de Pourquerie qui est invité sur un titre sur le disque. C'est le deuxième invité après San Severino. Par contre, je l'ai fait venir pour jouer du saxophone, là. Non, pas parce que.
Je pensais que c'était pour ses poils, parce qu'effectivement, il a un manteau maintenant très poilu. Donc, c'est pas pour ça, ça n'a rien à voir.
Non, mais je croyais qu'on arrêtait de parler de poils. Il faut être sérieux à un moment.
C'est vrai, mais en même temps.
Non, je l'ai fait venir pour Thomas, son énorme son de saxophone. Après, c'est la musique qui commande. Hein, donc, j'avais un morceau où je voulais un énorme son de saxophone, très rock'n'roll, très énervé, et Thomas il a ce côté rock, ce son très rock, il a un son d'alto qui est gros comme un baryton, et puis bon voilà, c'est mon vieux frère, donc c'était normal de l'inviter.
Il a résisté à l'envie de chanter?
Bah, je lui ai pas proposé en fait.
Bah voilà,
mais c'est vrai, il aurait pu faire un caprice, bon bah voilà, j'ai ce privilège, il me l'a pas fait.
Mais vous avez un chanteur sur l'album? Indépendamment de vous, hein, qu'on va entendre tout
à l'heure. Ouais, San Severino, comme je sais plus, je l'ai dit, je sais plus si on en parle hors antenne.
Non, on
en
a parlé hors antenne.
Ouais, voilà. Oui, il y a San Severino. Ouais, non, on va parler à l'antenne, pardon.
Mais San Severino, vous l'avez rencontré quand?
San Severino, j'ai rencontré avec Fred Palem et le Sacre du Tympan, et puis divers projets pour lesquels Fred faisait les arrangements avec des chanteurs invités. Vous savez, de temps en temps, on lui commandait ça à Radio France ou quoi, un hommage à Charles Trenet ou des choses comme ça, ou la soirée FIP. Et San Severino, il est venu plusieurs fois, sur un hommage à Nougaro aussi, donc ça c'était il y a pas longtemps. Donc voilà, puis moi j'aime beaucoup San Severino, donc voilà.
Mais en plus, il chante sur un morceau qui n'est pas complètement évident, on va pas l'entendre. Vous pouvez rappeler le titre du morceau?
C'est My Little Sweet New Zealand Bunker.
Voilà, on a parlé effectivement de ce titre-là. Et vous, quand on vous entend jouer, on a l'impression que, en fait, c'est presque comme si vous essayiez de faire chanter, enfin, vous faites chanter votre trombone.
Ouais, bah c'est comme ça que je le conçois, ouais, comme un prolongement de la voix.
Le morceau qu'on vient d'entendre.
Après, j'aime bien phraser aussi, hein, mais c'est vrai que sur les thèmes, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que, voilà, dans la manière de répéter les notes, de vibrer, de jouer avec le tempo, d'incorporer de l'air dans le son, des petits effets, en fait, que j'essaie d'interpréter comme un chanteur, effectivement. Ouais, des fois, j'ai l'impression. Que j'essaye d'imiter James Brown à jaillir ou ce genre de choses, ou Nougaro, et finalement plus le temps passe et plus j'y pense plutôt qu'à mes influences de soliste de jazz.
En fait, si vous n'aviez pas interrompu vos études d'économiste, si un autre Zimmerman n'avait pas piqué le nom avant, parce qu'il paraît qu'il a changé, il a pris un nom de scène justement pour parce qu'il pensait.
Oui, Bob Dylan, oui, a pris un nom de scène effectivement parce qu'il savait que j'allais arriver sur le marché.
Il savait que vous alliez arriver. Vous auriez pu être chanteur presque quand même. Vous aimez beaucoup la chanson, on a entendu au travers de l'album de Gainsbourg. Là, on entend aussi sur cet album.
Non, franchement, je pense pas. Pour moi, chanteur, faut avoir un. D'ailleurs, je pense un peu la même chose des instruments avant et des solistes de jazz. Faut avoir quelque chose à dire naturellement, de singulier. Et sans avoir à le chercher, à le creuser. Et je pense pas que je l'avais. Je m'amuse quand je chante un morceau. C'est pour m'amuser, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour faire un personnage. Mais voilà.
C'est un peu comme ça que Thomas de Pourquerie avait un petit peu commencé, puis il a poursuivi dans la carrière de chanteur. Mais au départ, c'était un peu comme ça. C'était un peu pour s'amuser.
Ouais, mais je pense qu'il avait déjà l'ambition. Très très tôt. Moi, je passais des soirées entières au restaurant où il me déclamait des textes de Nougaro, d'ailleurs. Donc,
ouais, d'accord. Vous avez l'amour de la chanson, je crois, du rugby aussi en commun aussi, c'est ça?
Ouais, pas tant que ça en fait.
Enfin,
on s'est connus en parlant rugby, mais si, on aime ça évidemment, mais voilà. Moins que de la chanson, je confirme.
Bon, on fera une émission au jazz. On avait prévu un jour avec Alex Dutille de faire une émission de jazz et rugby, mais on va la refaire pour la prochaine Coupe du Monde. Mais ça, c'est un autre sujet.
Il y aura du monde.
Alors, on disait Daniel Zimmermann, chanteur, et on vous découvre, bon chanteur, au travers d'un morceau qui s'appelle Stop This World, qui est un morceau de...
C'est un morceau de Moz Allison.
Et pourquoi ce morceau ?
Ben en fait, pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, je calcule pas si c'est l'inspiration, c'est l'envie. Après, ça me va bien, Moz Allison, cette espèce de dandy. Alors, je me conçois pas comme un dandy, mais cette espèce de pince sans rire qui peut évoquer des choses graves et cyniques en se moquant de lui-même et de tout. Cette espèce de dandy paysan, en fin de compte. Ça me va très bien. Après, il a une voix qui caresse. Et puis moi, je fais mon crooner désuet, comme je faisais quand je chantais Gainsbourg. Sur scène un petit peu, puisque je chante un petit peu. Voilà. Bah, pour moi, le plus important, c'était d'en faire une fois de plus quelque chose de personnel. Voilà. Avec, d'ailleurs, on a un peu une rythmique basse-batterie à la D'Angelo, c'est l'actualité, puisqu'il vient de mourir. Et avec une guitare classique par-dessus. Et puis, moi, j'ai mis des textes en français. Ça, c'était le plus important pour moi. Je pense que quand on a quelque chose à dire, en général, on le dit dans sa langue maternelle. Donc, voilà.
Ben, je propose qu'on l'écoute. Stop This World.
Oui.
Merci Daniel.
C'est ce monde en pâte rouge. Il y a trop de cochons dans la même bouche. Il y a beaucoup trop de vautours qui tournent en rond. C'est ce monde, il n'y a plus rien de bon. J'ai le seum, j'en ai ma claque. On a connu des temps plus fastes, des jours meilleurs il y a bien longtemps. Ne serait-il pas mieux d'arrêter maintenant? Il me semble que mon univers s'est écroulé. C'est comme si mon bateau s'était échoué. Je me sens à côté de la plaque. Tout me paraît tellement voué à l'échec. Alors, sifflez la fin du jeu. Je sais trop bien ce que ça veut dire. Je sais trop bien ce qui va nous en cuire. Laissons tomber, ça n'ira pas mieux. Trop de cochons sur la même au jeu. s'essoude, il n'y a plus rien de bon.
Sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Et oui, tout comme elle a dit, la dame sur Aligre FM 93.1 Jazzland, on était en compagnie de Daniel Zimmerman pour la sortie de l'album Snapshot sur le label Label Bleu. Et prochain concert à venir, il y a un concert à Amiens, mais pour les Parisiens, ce sera le 27 janvier au New Morning. J'ai tout bon ?
Tout bon.
Merci beaucoup, Daniel. Daniel, est-ce que vous êtes fâché avec les pianistes ? Je dis ça pour vous mettre mal à l'aise parce que vous avez une pianiste en face de vous.
Ben. Peut-être bien un peu, non mais moi c'est guitare, c'est ce qui me va bien. Je me sens souvent envahi par les pianistes. D'ailleurs, quand on a joué il n'y a pas longtemps avec Delphine, c'était pas le cas. C'est pas souvent, je me sens souvent envahi par cette obsession d'avoir le son le plus large possible. Et le trombone, c'est un instrument qui a besoin d'espace et de respirer. Et à la fois avec la guitare et l'accordéon, ça marche extrêmement bien. Donc j'ai fait peu de groupes avec des pianistes.
Eh bien, écoutez, je vous propose de rester avec nous parce que là, on va parler de Delphine Do au piano et de Julien Soro au saxophone pour la sortie. On parlait de baignoire tout à l'heure, là, on va continuer à parler de l'eau parce que c'est la sortie de l'album The Other Side of Water. Et d'ailleurs, vous pouvez m'expliquer, d'ailleurs, ça veut dire quoi, The Other Side of Water ? J'ai pas bien compris.
De l'autre côté de l'eau ?
Ah oui, ça j'avais compris.
Bah,
c'est très poétique, mais je...
Voilà. Bah, Julien, tu veux expliquer ? Je crois que c'est toi qui avais trouvé cette idée de nom.
Oui, j'aimais bien cette idée de j'avais cette image de quelqu'un qui se regarde dans l'eau et qui voit son image troublée. Les reflets troublés et les choses qui se troublent. Et c'était un peu l'histoire de cette musique, quoi, d'aller chercher des choses en nous-mêmes qu'on ne voit pas de façon très claire, qui sont un petit peu plus troubles, un petit peu plus abstraites, un petit peu plus intimes. Et voilà.
Je vous propose tout de suite, on va parler un petit peu de cette rencontre, de rencontre que vous connaissez depuis longtemps, du déclic qui vous a amené à jouer en duo tous les deux. Et je vous propose qu'on commence, qu'est-ce que j'avais choisi, avec Renata.
Ah bah oui.
Hein, et puis comme ça, on plonge directement, non pas dans la baignoire de Daniel Zimmerman, mais dans la musique de Delphine Do et de Julien Soro.
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland, Aligre FM 93.1, en compagnie de Delphine Do et Julien Soro, on va dire en compagnie de The Other Side of Water, parce que je viens d'apprendre que c'est à la fois le titre de l'album et aussi le titre du groupe. Et alors, Delphine et Julien, vous vous connaissez depuis pas mal de temps, vous n'êtes pas tout à fait de la même génération. C'est quoi le déclic qui vous a amené à dire, si on faisait un duo?
On a toujours joué de la musique ensemble, on se connaît depuis 15 ans et pour la petite anecdote, Julien a même été mon premier professeur de piano jazz en 2009 et
de piano,
il donnait des cours de piano et donc on a déjà commencé à jouer ensemble à cette époque-là et puis on est resté amis pendant ces 15 années et la vraie naissance de l'envie du duo, je crois qu'elle est venue au moment où j'ai rejoint Pégase des Lélicons en 2022, je dirais. Mais on avait déjà joué ensemble. Je me souviens qu'on avait fait un concert avec Raphaël Schwab, contrebasse, piano-saxophone, une fois. Enfin, voilà, on jouait dans le cadre privé de temps en temps. Mais l'idée du duo est vraiment... s'est concrétisée, je vais dire, en 2022, quand j'ai rejoint le collectif.
Vous, Julien, le duo, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps, notamment avec votre compère Raphaël Schwab. Mm-hmm. Delphine, on vous connaît au travers de Nefertiti, qui était venu ici, de l'album sur John Dolan aussi. Le duo, moins ?
Moins, effectivement. En tout cas, pas en disque et pas à cette fréquence-là. J'avais bien sûr fait plein d'expérimentations en duo, mais finalement, j'en ai un autre maintenant qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci, mais j'ai un autre duo avec un autre pianiste à quatre mains qui s'appelle Cosmic Keys. Et effectivement, c'est un exercice que j'avais pas beaucoup pratiqué.
Comment vous appréhendez le duo ? Alors déjà, premièrement, en termes de composition, sur cet album, comment ça s'est passé ? Chacun a amené ses compositions, vous vous êtes bagarré pour savoir celles qu'on retient, celles qu'on ne retient pas, comment ça se passe ? Celles que peut jouer Daniel Zimmermann, enfin Daniel Zimmermann, il peut jouer tout. Donc,
Non, on a construit un répertoire en commun en essayant de faire quelque chose d'équilibré, en gardant cette thématique d'aller chercher des énergies un peu plus douce, un peu plus intimiste. Il y avait cette idée de l'envers de soi-même, ce que je disais tout à l'heure. Et puis aussi, je reviens au fait aussi ce que je connais bien Delphine, et puis moi je me connais un petit peu aussi quand même à force. Et Delphine, c'est quelqu'un d'assez speed, très, très efficace dans la vitesse, qui a un jeu, une fluidité dans la vitesse. Et justement, le jeu c'était un peu de la ralentir. Moi je suis quelqu'un de très énergique, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup de physique dans le jeu. Et là c'était aussi essayer d'aller chercher des choses un petit peu moins physiques, un petit peu plus contemplatives. Il y avait cette envie d'aller chercher l'envers de nous-mêmes. Et puis dans les compositions, du coup, c'est essayer d'aller trouver ces énergies-là par l'écriture. Voilà, il y a un dernier truc aussi que je voulais rajouter, c'est que moi, je suis comme Daniel, ça rejoint ce que disait Daniel, j'ai mis beaucoup de temps à jouer avec les pianistes. J'ai du poil aussi comme Daniel, bien sûr, mais j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir jouer avec des pianistes. Alors pour le coup, moi, c'était ni la guitare ni l'accordéon, c'était les groupes sans harmonie. Je me suis vraiment épanoui dans des groupes sans harmonie où il y a de la liberté justement harmonique et il n'y a pas cette espèce de cadre harmonique et d'énormément de sons et d'énormément de notes qui sont produites par les guitaristes, les pianistes encore plus. Et puis en plus, il se trouve effectivement que je suis pianiste à la base et que j'ai toujours été super exigeant sur les pianistes. J'adore les grands pianistes, mais j'ai mis du temps à commencer à pouvoir trouver des pianistes avec qui jouer. Je savais que Delphine, à un moment donné, ça se ferait et là, ça s'est fait et c'est très bien. Et je commence à jouer avec en plus d'autres pianistes maintenant et c'est très très chouette. Mais ça a mis une bonne dizaine d'années pour se décanter, qui est vraiment cette envie qui naisse.
Alors on va écouter un autre morceau, mais après vous allez nous parler aussi de la géométrie variable de ce projet, parce que là il est en duo, mais il peut être en plus grand format. Mais je vous propose qu'on écoute un album qui s'appelle Woods Pigeons.
Pigeons. Are Dancing in My Garden.
Oui. D'accord.
Ça, c'est un morceau directement d'inspiration avec Delphine.
On n'a pas mis le sous-titre sur le disque.
Oui, on était en train de répéter à la maison et comme j'ai un jardin, il y avait des pigeons ramiers qui étaient en train de faire des bêtises dans le jardin. Et il y a eu l'idée, voilà. Il y a eu l'idée de ce Wood Pigeons.
Alors en fait, il n'y a pas de pigeons dans le studio, mais je ne vous dirai pas qui a fait le
pigeon. Oui,
je ne vous dirai pas qui est le pigeon du studio.
Forcément un trombonis.
Allez, Wood Pigeons. Thank you. Sur Jazzland, Aligre FM 93.1, en compagnie de Delphine Do, pianiste, et de Julien Soro, saxophoniste, multi-saxophoniste, parce que là on vient d'entendre un morceau où Julien joue de combien de saxophones en même temps ?
De l'alto et le soprano, que je joue séparément le plus souvent dans le projet, selon les morceaux. Mais effectivement, là, il y a un petit bac de solo de piano où j'ai eu cette envie. Et je me laisse des fois porter par des intuitions, des instincts comme ça. Et j'ai juste envie de prendre les deux sax, comme le fait Kirk ou Baptiste Herbin. Je l'ai vu le faire aussi à certains concerts avec beaucoup de brio et beaucoup de technique. Moi, je le fais de façon un peu plus artisanale, un peu plus simple. Mais j'adore, ça donne une sorte de bizarrerie, ça surprend les gens avec qui on joue et qui souvent lèvent les yeux et se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer, et ça peut les faire beaucoup rire. Des fois ça part en fou rire, ça peut vraiment mettre quelque chose de sympathique.
Alors là c'est une petite parenthèse dans l'album, hein, qui est plus intimiste. Là c'est une sorte de petite récréation que vous avez mis dans, mais je veux m'amuser de le mettre. Franck Bergerot, dans ses liner notes, parle en parlant de votre musique, il dit que vous faites du pointillisme. C'est quelque chose que sur laquelle vous êtes d'accord, ou j'imagine, puisque c'est dans vos liner notes. Mais
oui, je pense qu'il doit sûrement faire référence aux compositions que j'ai écrites moi, dans lesquelles j'ai choisi de m'inspirer beaucoup d'Olivier Messiaen. Et effectivement, dans l'exercice de travailler la lenteur et la contemplation, dans les improvisations et les introductions des morceaux, on a essayé d'être assez... peut-être pointilliste sans formuler la chose, mais c'est vrai qu'il y a le morceau The Other Side of M notamment, qui commence par une grande introduction de piano où je prends vraiment, j'essaye de prendre beaucoup le temps de poser les notes, d'écouter les sons.
Il y a une vraie notion d'espace, hein, dans votre album, d'espace et d'écoute, mais ça c'est inhérent au duo, mais où chacun laisse quand même beaucoup d'espace à l'autre. C'est quelque chose qui se travaille, ou c'est intuitif et c'est en studio, ça se passe comme ça?
Franck, dans le texte, il évoque aussi un joli mot qui est le mot de résonance, et de laisser vraiment les choses résonner. Donc il y a beaucoup de moments où on laisse résonner les choses, on laisse résonner le piano, elle laisse la pédale de piano pour que le saxophone résonne à l'intérieur du coffre du piano. Il y a des moments d'espace comme ça. Et puis moi, j'aurais plus parlé d'impressionnisme que de pointillisme, parce que je pensais aussi à l'aspect pictural. Moi, je me suis beaucoup, pour écrire les compositions, je me suis beaucoup inspiré de la peinture abstraite, que j'aime beaucoup. Et avant l'abstraction, il y en a un qui s'appelle Mr. Turner et qui est en fait un double hommage au peintre William Turner, mais aussi au film de Mike Leith sur lui, qui s'appelle Mr. Turner, qui est un film que je t'ai trouvé magnifique. Et là aussi, influencé par cette peinture-là et d'autres peintures. Il y a des peintres, et j'ai été beaucoup au musée, et quand j'étais gamin, mon père est peintre, et donc ça m'a influencé, cette peinture abstraite, pour composer certains morceaux. Et donc une peinture où il y a de l'espace, où il y a de l'abstraction, où il y a une forme d'impressionnisme et de couleur, quoi.
En entendant votre album, et d'une manière générale, je pose aussi la question à Daniel, il y a une définition que j'aime bien de Henri Texier quand il parle du jazz, quand il demande de définir le jazz. Personne ne sait vraiment le faire, enfin, c'est trop compliqué et puis trop long, on n'a pas le temps. Voilà, mais simplement, il dit, le jazz, c'est une affaire de tension détente. Ça vous va, cette définition? Moi, en entendant votre album, j'ai ressenti un peu ça, quoi. Mais est-ce que c'est important, cette mise en tension et ce relâchement aussi? Poser la question à tous les trois.
Oui, c'est pas faux. Pour moi, ça ne définit pas que le jazz.
Ça définit plus la musique.
Ça définit la musique, pour moi, toute la musique, la musique tonale. Mais oui, dans le jazz, il y a peut-être ce côté-là qui est exacerbé, je ne sais pas.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, même dans ce format de duo, de garder toujours cette énergie, ce fil tendu ?
On essaye. Et puis surtout, on essaye d'être aussi très relâché quand on joue. Et d'aller chez... Oui, forcément, il va y avoir des moments de tension et des moments où la musique se crispe, mais où il se passe quelque chose, on sent important. Mais en même temps, il y a aussi vraiment, pour le coup, dans notre disque, l'envie d'être relâché quand on joue cette musique. Hein, et d'avoir le temps de jouer quelque chose dont on profite quand on le joue au présent. De ne pas être forcément dans ce rush. C'est pour ça que c'est une musique qui ne fait pas appel qu'au jazz, je pense. Elle fait aussi appel à la musique de chambre, elle fait aussi appel à la musique française du XXe siècle. Il y a quand même pas mal de références aussi. Moi, dans mon oreille, il y a Debussy. Debussy aussi, Ravel, des choses comme
absolument.
Ça. Voilà. Et ouais. Aussi le duo Shorter-Hancock, quand même, qui moi m'a beaucoup influencé comme duo sax-piano. Le One Plus One, ce disque que je trouve incroyable et qui nous influence à tous les deux, parce que toi, t'aimes beaucoup aussi Shorter, ouais. Delphine. Donc il y a aussi ça, quand même, qui est à l'origine de tout ça.
Alors, juste, pour ne pas l'oublier, on va vous entendre en concert. Donc il y a une release party, c'est ça qu'on dit, hein, la release party.
La release party.
Voilà. En fait, c'est le concert de sortie.
Voilà,
c'est ça, voilà, bon,
tout bêtement.
Le 6 novembre au Sunside, est-ce que vous avez d'autres dates à annoncer?
Alors, en duo, pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, mais non. On a une grosse saison qui nous attend avec l'orchestre.
Oui.
Puisqu'on va jouer, alors dans l'ordre, le 13 février au Pavillon de la Sirène à Paris, le 28 mars à la Maison de Radio France, au Studio 104 à Radio France, le 7 mai au Petit Faucheux à Tours,
le 6 juin,
à
l'Espace culturel du Blanc-Ménil,
et le 12 juin au Théâtre Alep.
Aleph, à Ivry-sur-Seine.
Voilà.
On a l'impression que c'est une partition, c'est-à-dire c'est sans notes, sans rien, ils le jouent comme ça, ils connaissent ce truc.
Il faut dire qu'on a fait beaucoup de mails et beaucoup de choses pour organiser un orchestre de 9 personnes, ça prend du temps et ça finit par rentrer les infos. Quoi.
Alors, malheureusement, le temps passe vite, il faut conclure, mais juste parlez-nous de ce format dans lequel Daniel a joué. C'est le même répertoire en format élargi.
C'était un peu le concept, l'envie de ce concept. Alors il vient de déjà l'entente qu'on a réussi à développer en duo et l'envie de pas en rester là et de jouer avec d'autres gens et d'être en binôme, en leader, quoi. Moi, je me sens bien en binôme et en leader avec Delphine. Je trouve qu'on a un bon équilibre et puis on a envie de continuer, d'élargir. Et à partir du duo, le concept, c'était de reprendre les mêmes compositions et de les faire arranger, parce qu'avec Delphine, on n'est pas des arrangeurs d'orchestre. Et ça résonne plutôt de mon histoire, pour le coup, avec l'ONJ et avec aussi le collectif Pégase, c'est-à-dire d'utiliser les gens qui ont du talent pour ça et de les faire travailler, de leur faire une commande sur nos compositions du duo pour que ça devienne une musique d'orchestre. Et ça, on a donc commandé à Frédéric Morin, l'ancien directeur artistique de l'ONG, à Raphaël Schwab, avec qui je travaille depuis très longtemps et j'ai une totale confiance en ça, et puis aussi Grégoire Letouvet, qui a quand même aussi dirigé des orchestres, qui arrange beaucoup de musique et qui a une grosse connaissance de ça. Donc ça donne ce répertoire-là que vous pouvez entendre en duo, mais il va être transposé en honnête avec une équipe, un peu une équipe de rêve. On est hyper fiers de cette équipe, notamment Catherine Delaunay à la clarinette, une trompettiste
aussi
allemande
que...
Voilà, aussi de l'ONG, une trompettiste allemande que tout le monde va bientôt découvrir et qui est remarquable, qui s'appelle Heidi Bayer, et puis toute ma clique de base de mon ancien quartet Big Four, Stéphane Caracci, Raphaël Schwab, Raphaël Körner, voilà, et puis Daniel qui nous a fait l'honneur de faire toutes les premières répètes et le premier concert. Et puis Christiane Bopp aussi qui reviendra pour la saison prochaine. Donc vraiment des musiciens que je connais depuis longtemps et en qui j'ai une confiance et une admiration totale. Donc la première s'est super bien passée, on est très heureux de ce projet.
Comment vous vivez, je pose la question à Daniel et à Julien, la fin de l'ONG, comment on vit ça en tant que musicien?
Bah, c'est la vie, c'est dommage, hein. On aurait bien aimé que ça continue, mais voilà quoi, y a pas de... Ouais, Julien ?
Moi je dirais que c'est à la fois un peu triste et c'était une période pas facile parce que ça fait quand même beaucoup de boulot et on est content de faire des projets incroyables et en plus il y a les moyens pour les faire, donc on a vécu ces choses incroyables et en même temps c'est un peu aussi un soulagement parce que la musique d'orchestre et être sideman dans un orchestre, c'est pas simple tous les jours, il y a beaucoup de sacrifices à faire même en termes personnels je trouve, voilà, faut savoir se diluer dans le collectif, ce qui est super mais ce qui peut être un peu lassant au bout d'un moment quand on fait que ça. Et du coup, ça me permet aussi, après l'ONG, de me redynamiser pour faire des projets qui me ressemblent un petit peu plus et puis mettre un petit peu plus d'énergie personnelle sur certains trucs. Donc ça a aussi du bon et je suis en train de m'y retrouver en ce moment.
Bon, pour nous aussi, le bon côté des choses, c'est que vous êtes un peu plus concentrés sur vos propres projets et on est absolument heureux de vous entendre. Daniel, un grand merci. On rappelle le titre de l'album ?
Snapshots.
Sur le label ?
Label Bleu.
Bravo. Parfait. Et concert 26 janvier au New Morning.
27 janvier,
au New Morning. Delphine et Julien, un grand merci. On rappelle aussi le titre.
The Other Side of Water.
Sur le label, je crois que je ne l'ai pas dit, le label.
Pégase et l'Hélicon, c'est notre collectif.
Voilà, distribué par Inouï.
Votre collectif. Et release party le 6 novembre. Donc c'est bientôt au Sunside. Un grand merci à vous. Je remercie Armand à la technique. À suivre Lusitania. La semaine prochaine, vous retrouvez Lionel Eskenazi avec Kevin Révérend et Mathias Lévy. Nous, on se retrouve dans 15 jours autour de Rameau, tiens. Le projet de Fred Pouget, du Maxiphone autour de Rameau. C'est comme ça fait pas très jazz, mais écoutez, vous verrez, dans 15 jours, c'est absolument étonnant. On va se quitter avec Zvelto, c'est ça ?
Zvelto.
Alors, je vais le dire, c'est du tchèque pour ma compagne, comme ça, elle se fâchera pas, c'est Zvelto.
Ça veut dire ?
Svietlo, ça veut dire lumière.
Bravo, super. Un grand merci à vous. Donc, on se quitte avec Vielto. Et puis, on se dit à dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.